Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Un tiers des électeurs italiens devant les urnes depuis hier pour des élections régionales à haut risque. Des bastions de la gauche comme la Toscane pourraient basculer à l'extrême droite et fragiliser la coalition pouvoir. La Toscane, justement, est le lieu d'affrontement symbolique entre le chef de la Ligue, Matteo Salvini, connu pour ses positions anti-migrants, et l'ancien président du Conseil démocrate, Matteo Renzi, qui essaie de se relancer avec un nouveau parti, Viva Italia. Ces élections sont un peu un test pour Renzi, qui peut compter sur un bon soutien des millennials, ces jeunes électeurs de 20-30 ans. À Milan, Franceline Beretti est allée à leur rencontre.
Que una parte significativa del mondo che ha...
C'était dans le monde d'avant le coronavirus, à une rencontre avec Matteo Renzi dans un théâtre milanais. Au premier rang, une quinzaine d'ados boit les paroles de celui qui vient de créer son parti, Italia Viva. Une fois le discours fini, ils lui courent après pour obtenir une photo et trois mots gentils. Plusieurs mois plus tard, je retrouve Pietro et Angelo, 25 et 22 ans. Ils sont tous les deux millennials. C'est un groupe fondé en 2017 par des jeunes nés autour de l'an 2000 pour s'investir en politique. Environ 7000 Italiens sont inscrits. Ils sont ouverts, dynamiques et viennent plutôt de milieux aisés. Et ce sont donc des fans de Renzi, comme Pietro, le coordinateur du groupe à Milan.
Ce qu'il a en plus, c'est que ça ne l'intéresse pas d'avoir un point en plus dans les sondages. Ce qu'il veut, c'est bien faire son travail, faire ce qu'il faut pour les jeunes et pour les citoyens. Et ça, les jeunes l'apprécient.
Angelo, lui, a pris sa carte du Parti démocrate en 2017, inspiré par Renzi et par son successeur à la tête du gouvernement, Paolo Gentiloni. À l'époque, Angelo vit aux États-Unis, dans le Michigan.
J'étais en train d'étudier dans un pays que je considérais meilleur que le mien. Mais eux, ils m'ont convaincu que l'Italie avait un gros potentiel. Pendant ces années, Gentiloni et Renzi représentaient cette volonté de changement, de faire de l'Italie une des premières puissances, pas seulement européenne, mais mondiale, et pas de la laisser en queue de peloton comme elle l'a été ces deux dernières années.
Pour ces jeunes militants du Parti démocrate, il a fallu choisir l'année dernière entre la maison mère et le père en politique, quand Renzi a annoncé son départ. Angelo n'a pas hésité longtemps.
J'ai repensé au passé, j'ai repensé à ce Matteo qui parlait avec les jeunes, à chacun d'entre eux. Ce qu'il m'a transmis à moi et ce qui m'a convaincu de le suivre à Italia Viva, c'est qu'il a toujours à la bouche le mot « futur ». Pour Matteo, le futur, c'est les jeunes, c'est sauver ce pays, le rendre meilleur pour les jeunes et pas pour l'ancienne génération. Et non pour la génération
passée. Tu l'appelles Matteo. Tu as un lien personnel avec Renzi?
Non, mais c'est vraiment la proximité qu'il a avec les jeunes, avec notre communauté. Il s'arrête toujours, même s'il est en retard, même s'il doit s'échapper pour aller à un événement, peut-être plus important même.
Matteo Renzi a été surnommé Rotamatore, celui qui veut mettre les vieux politiques au placard. Par conviction ou par calcul, il s'est tourné vers les jeunes. Et quand il est nommé secrétaire national du Parti démocrate, en mai 2017, il en nomme 20 à la direction nationale. 20 jeunes de 19 à 32 ans qui sont enfin pris au sérieux. Asia est coordinatrice des Millennials pour la Lombardie. Elle a vu ses nominations comme une petite révolution.
Il nous a donné la possibilité d'être écoutés. C'est très important, surtout quand on voit le peu d'espace que la politique donne à notre génération. Parce que non seulement les politiques n'écoutent pas les jeunes, mais souvent, ils ne s'adressent même pas à eux. Il n'y a qu'à voir le peu de considération donnée à l'école ou à l'université ces derniers mois.
D'après les sondages, seuls 4% des électeurs voteraient Italia Viva. Mais pour les millennials, le bilan du passage de Renzi au gouvernement est largement positif. Pietro regrette la faible mémoire des Italiens.
Il faut repartir de là, il faut parler de ce bilan. La première chose à mentionner, selon moi, du point de vue sociétal, ce sont les unions civiles. Industrie 4.0 aussi, qui a donné un nouvel élan à l'économie italienne. Et le Jobs Act, on en a dit tellement de mal. Pourtant, il a donné ses fruits. Il y a tant d'aspects qui doivent être réévalués.
Union des personnes homosexuelles, adaptation des entreprises au numérique, flexibilisation mondialisation du marché du travail, autant de progrès injustement oubliés. Ça tombe bien, il y a bientôt des élections régionales en Italie. Les millennials en sont certains, les 20 et 21 septembre, Italia Viva va enfin se révéler. Le reste de l'Italie n'est pas aussi optimiste sur le futur. Les problèmes économiques et sanitaires rendent ce discours encore compliqué à entendre, y compris parmi les jeunes qui ont le sentiment de payer, plus que les anciens, la facture de la crise.
À noter que tous les électeurs doivent aussi se prononcer lors d'un référendum pour réduire drastiquement le nombre de députés. Résultat attendu dans la nuit de lundi à mardi. On a vu les vidéos de ces masques chirurgicaux jetés parmi les coraux dans une réserve marine de Méditerranée, ou encore ces photos de masques sur les trottoirs ou dans les caniveaux. Alerte aux déchets non recyclables. Les masques anti-Covid sont produits à partir de dérivés du pétrole et ils sont contaminés. En France, on en produit 60 millions chaque semaine. En Nouvelle-Aquitaine, une petite entreprise a trouvé les moyens de les recycler, Robin Dussan.
Composés de microfibres de polypropylène, une matière plastique, ces masques ne sont pas biodégradables et mettent près de 450 ans à disparaître dans la nature. À la sortie du confinement, plusieurs industriels se sont emparés du problème pour tenter de trouver une solution de recyclage efficace. C'est désormais chose faite à Châtellerault, à côté de Poitiers, avec l'entreprise Plaxteel. Déjà spécialisée dans le recyclage et l'économie circulaire avant la pandémie, la PME avait élaboré le Plaxteel, une alternative aux matières plastiques issues de l'industrie pétrolière fabriquée à partir de textiles non recyclés. Depuis le début du mois de juillet, des milliers de masques à usage unique affluent vers l'atelier. L'entreprise a fait appel à une structure d'insertion qui collecte les masques dans les 50 bornes en carton installées dans les pharmacies, grandes surfaces, commerces et cabinets médicaux du Grand Châtellerault. La suite passe par une machine à rayons ultraviolets pour que la décontamination soit totale avant de fabriquer notamment des visières de protection réutilisables et des ouvre-portes pour éviter de toucher la poignée avec ses doigts, des accessoires utiles en cette période de pandémie. En 3 mois, la start-up française a déjà récolté plus de 70 000 masques sur son site internet. Elle admet même crouler sous les demandes des collectivités, des crèches, des particuliers, mais aussi des journalistes. Victime de son succès, Jean-Marc Neveu, le patron, a dû embaucher quelqu'un pour gérer les 200 coups de fil quotidiens qu'il reçoit.
En Europe, les plastiques à usage unique seront interdits à partir de 2021. La solution passe donc aussi par le recyclage. En Lituanie, sur les bords de la Baltique, une entreprise a trouvé une alternative pour les gobelets en plastique. La société CupCup propose des consignes, surtout pour des événements en plein air comme des festivals qui ont pu reprendre cet été. Marielle Vituro est allée rencontrer ces entrepreneurs écologistes.
Patiemment, à chaque participant, Irmantas Šuškevičius, le fondateur de CupCup, explique le système des gobelets consignés. Cela coûte 2 euros. 1 euro pour la consigne, 1 euro d'éco-participation. Le fêtard se va remettre un petit coupon, il l'échangera au bar contre un gobelet, puis il pourra en changer autant de fois que nécessaire pour un propre. Ce samedi, Irmantas a porté sa cargaison dans la cour d'une grande usine textile de Vilnius, transformée en piste de danse.
C'est moi qui ai tout apporté. 3 cartons de 500 gobelets, 1500 en tout. Les organisateurs comptent sur 400 participants, cela devrait amplement suffire. En général, les barman resservent jusqu'à 10 fois dans le même gobelet.
Irmantas Šuškevičius, également musicien, s'est lancé dans l'aventure du gobelet consigné, après l'avoir testé lors du festival Rock en scène à Paris.
Je me suis aperçu que les festivals lituaniens étaient submergés par les détritus. Une fois le concert fini, les gens se retirent et sur le sol, ce n'est qu'un tapis de gobelets en plastique. Et en Lituanie, tous ces festivals se déroulent en plein air, dans la nature, dans la forêt.
Irmantas s'est lancé avec sa femme Valdonė Daugėlaitė dans l'aventure. La jeune femme prépare une thèse sur les emballages et l'économie circulaire. Valdonė.
L'année dernière, nous étions présents sur 8 festivals pour nos débuts et nous avons calculé que cela a permis d'économiser 800 kilos de plastique, soit 92 000 gobelets en plastique jetable.
Guédré est venu s'amuser s'amuser ce samedi après-midi à Vilnius, c'est déjà une convertie.
Savoir qu'on évite de jeter les gobelets est très positif. De plus en plus de contenants réutilisables sont utilisés dans les bars et toutes sortes d'événements. J'utilise aussi des sacs en tissu pour faire mes courses. Je trie mes déchets et j'essaye de louer des voitures électriques autant que possible.
Musicien dans un groupe connu, Hermantas a réussi à convaincre les organisateurs. Il affirme qu'aujourd'hui, 90% des festivals de musique de Lituanie travaillent avec lui et sa start-up le fait vivre.
Lors des festivals, nous demandons 1 euro d'éco-participation qui nous revient. Avec cette somme, nous finançons le transport des gobelets, le nettoyage, la collecte à la fin de la soirée, notre activité.
En Lituanie, les bouteilles en plastique et en verre sont consignées depuis 2016. Une véritable réussite locale. Mais aujourd'hui, seule la municipalité de Neringa sur la côte baltique a banni le plastique à usage unique lors des événements publics. Les gobelets de Cup sont produits en Lettonie, en plastique de type P5, un plastique alimentaire recyclable. Cup travaille avec Jiedune Morkunaite de l'ONG International Precious Plastic pour trouver comment les recycler. Elle fait la démonstration lors d'un atelier ouvert à tous lors d'un événement de quartier.
Nous avons mené les premières expérimentations pour recycler les gobelets défectueux. Nous les avons transformés en petits pavés hexagonaux qui permettent ensuite d'être utilisés comme revêtements sur des murs ou bien sur des sols.
Les choses changent peu à peu grâce à la coopération avec l'Institut où Valdonné réalise sa thèse. Une entreprise de carton produit désormais un gobelet entièrement recyclable.
Avant, ils produisaient des gobelets en carton jetable avec une couche de polyéthylène à l'intérieur. Ils ont trouvé une alternative en remplaçant cette couche de plastique par une autre matière, produite, elle, à base de latex naturel. Elle a la même fonction barrière que le polyéthylène, mais les gobelets n'ont plus de composants plastiques et peuvent ainsi être recyclés.
Aujourd'hui, Cup lance le même système de consigne pour les tasses de café à emporter avant d'essaimer peut-être dans les pays voisins. Des festivals en Lettonie et en Estonie les ont déjà contactés.
If it's a storied past you're in search of, look no further than Her Majesty's Royal Palace and Fortress, the Tower of London.
Et les guichets sont à nouveau ouverts pour la culture, mais la fréquentation est très limitée. Par exemple, la Tour de Londres a dû restreindre le nombre de visiteurs à 800 par jour, contre 15 000 en temps normal. À ce rythme, les caisses ont bien du mal à se remplir et les gardes royaux en costume, les fameux Beef Eaters, craignent un plan social à Londres. Marie Billon.
Ils sont présents dans la Tour de Londres depuis le XIe siècle et tous les soirs encore, ils jouent leur rôle. Quand la forteresse ferme, ce sont eux, les Beef Eaters, qui paradent avec les clés de Sa Majesté lors d'une cérémonie immuable. Ils sont aujourd'hui une trentaine et s'ils ont surtout un rôle d'apparat, ils font partie du paysage de la Tour de Londres. Ce sont eux qui font visiter ce palais médiéval aux touristes. Mais des touristes, il y en a peu en ce moment. Alors les Beef Eaters, qui doivent leur nom à la viande de bœuf dont ils étaient friands, risquent un plan social. Il y a déjà eu un plan de départ volontaire, mais les coupes budgétaires pourraient être plus drastiques encore. L'association des palais royaux historiques est entièrement autofinancée. En 2019, 80% de ses revenus provenaient des visiteurs. Cette année, le manque à gagner est estimé à l'équivalent de 108 millions d'euros. La presse britannique s'empresse donc de lancer des cris d'alarme concernant les dangers qui guettent ces symboles. Ce n'est pas le premier plan social, corrigent cependant les historiens. Au début du 19e siècle, il y avait une centaine de Beef Eaters. Le nombre a été réduit à une trentaine pour en faire une sorte de corps d'élite. Mais c'est un sujet qui touche le cœur des Britanniques, car la légende veut que si les corbeaux gardés par les Beef Eaters quittent la Tour de Londres, le royaume s'effondre. Ils sont 6 volatiles minimum à habiter dans le château. Mais en ce moment, les corbeaux s'ennuient à cause du manque de visiteurs. Les touristes offrent non seulement une distraction aux oiseaux, mais en remplissant les poubelles, ils leur donnent l'occasion de chercher à manger. 2 volatiles ont déjà des envies d'ailleurs, alors les Beef Eaters doivent redoubler d'inventivité. Ils leur ont offert des balles en mousse, des petits ours en peluche et des petits jouets en plastique qui couinent. Le tabloïd The Sun a donc lancé un appel aux Londoniens. Allez visiter The Tower of London pour sauver les Beef Eaters et par ricochet le royaume de Sa Majesté.
Dans cette histoire, il y a un paradoxe très intéressant. Ce sont les Russes qui ont privé un chef de sa nationalité. Ce sont les Russes qui ont dit « tu n'es plus tchèque ».
On ne présente plus Milan Kundera, écrivain tchèque exilé en France, traduit dans le monde entier. Ses fans savent peut-être moins que l'auteur de l'insoutenable Légèreté de l'être écrit désormais en français. Jusqu'alors, il traduisait lui-même ses romans en tchèque, ce qui n'est pas banal. Mais désormais, sa santé ne lui permet plus. Petit événement sur la scène littéraire, il a enfin accepté qu'une traductrice s'attelle à ce délicat travail. Les explications d'Alexis Rosenzweig.
C'était un événement attendu depuis plus d'un quart de siècle dans les librairies tchèques, la sortie d'un livre de Milan Kundera en tchèque, la langue maternelle de l'écrivain né à Brno il y a 91 ans. Ce roman, titré « La fête de l'insignifiance », a été écrit en français et publié en 2014 dans l'Hexagone, où l'auteur s'est exilé dans les années 70. Célèbre en République tchèque pour ses traductions de Céline et ses travaux dans le cinéma, sa traductrice porte un nom très littéraire, Anna Kareninova, et elle concède d'entrée que traduire Kundera en français est un travail très complexe.
C'est tout à fait différent. Ce n'est pas tellement une traduction comme nous sommes habitués, mais c'est plutôt une reconstruction d'une langue d'un grand écrivain. Donc j'ai essayé de reconstituer son tchèque. Et c'était difficile, vraiment difficile.
La naturalisation française de Milan Kundera en 1981 fut marquée par une cérémonie présentée par le ministre de la Culture Jack Lang. À l'époque, Milan Kundera écrit toujours en tchèque. Il publiera 3 ans plus tard l'insoutenable légèreté de l'être.
La France était toujours pour moi, disons, ma deuxième patrie, ma patrie spirituelle. Et si elle est devenue aujourd'hui ma première patrie, je suis vraiment très heureux. Merci.
Milan Kundera a commencé à publier ses romans écrits en français en 1995. Anna Kareninova a beaucoup relu les textes qu'il avait écrits en tchèque avant son émigration pour reconstituer le style de l'auteur dans sa langue maternelle et le vocabulaire employé. Et puis elle a été en contact régulier avec l'écrivain et son épouse pour peaufiner cette traduction. Depuis la publication en tchèque de l'Immortalité, roman qu'il avait lui-même traduit, Milan Kundera avait refusé de laisser traduire ses livres en tchèque par un autre que lui. Sa traductrice indique que son âge et sa santé l'ont contraint à changer d'avis.
Il s'est avoué que tu n'as plus la force ou bien le temps peut-être de traduire en tchèque.
Et Anna Kareninova ajoute par ailleurs ne pas déceler de tchèque dans les écrits français de Kundera, bien au contraire.
J'ai trouvé qu'il avait déjà écrit avec les procédés français, même autant de ses romans tchèques. J'ai trouvé des procédés du français, l'influence du français sur son écriture tchèque, même avant son départ en France.
Comment ça se fait, à votre avis?
Vous savez, il était traducteur lui aussi, et il a traduit en tchèque. Par exemple, Guillaume Apollinaire, très bien. Et je pense que c'était vraiment sa façon de penser et d'écrire.
Milan Kundera est devenu officiellement citoyen tchèque l'année dernière, une quarantaine d'années après son départ pour la France. Il entretient un rapport complexe avec son pays natal, où récemment a été publiée une biographie peu élogieuse de cet écrivain, dont la réputation est entachée de soupçons de délation pendant une sombre période de la Tchécoslovaquie communiste. La parution d'un de ses romans en tchèque marque une nouvelle étape, quelques semaines après l'annonce par le couple Kundera du don de toutes ses archives à la bibliothèque régionale de Brno, sa ville natale. Anna Kareninova travaille quant à elle déjà sur la traduction en tchèque de L'ignorance, un roman paru en France en 2003 qui a pour sujet des émigrés tchèques qui, contrairement à l'auteur, sont rentrés dans leur pays.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.